Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit Public, un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, l'économiste Daniel Cohen, l'essayiste Mathieu Laine, le politologue Pascal Perrineau et le directeur général du think tank Terra Nova Thierry Pech. Au sommaire aujourd'hui, économie, quels indicateurs pour dire si oui ou non la France va mieux? Et Grande-Bretagne, l'île du repli après le scandale Windrush. Il y a des semaines comme ça où l'on a du mal à prendre la température. Des semaines où les indicateurs économiques nous plongent dans un profond désarroi. Ainsi, ces derniers jours, il y a eu l'INSEE nous annonçant un coup de mou de la croissance, un net ralentissement passant de 0,7 à 0,3 pour les trois premiers mois de 2018. Une semaine où l'on nous annonçait aussi la sortie de la France de la procédure de déficit excessif, une première depuis 2007. En clair, nous pouvions nous réjouir de deux années consécutives de déficit public inférieur à 3% du PIB. Oui, mais le même jour, le magazine droitier Valeurs Actuelles faisait lui sa une sur une très angoissante grenade dégoupillée, avec un titre comme toujours tout en nuances, « Dette publique, la bombe à retardement ». On apprenait enfin que depuis hier, le 5 mai, la France était en déficit écologique, c'est-à-dire qu'elle avait déjà consommé toute sa part des ressources naturelles que la planète peut renouveler en un an. Bref, on se demandait quels critères prendre en compte pour connaître l'état réel du pays. Emploi, consommation, investissement, déficit, dette, épargne, morale des ménages, morale des patrons. À quels chiffres s'accrocher pour répondre à la lancinante question « Allions-nous mieux, moins bien, pas si mal ou pas si pire ?» comme disent les Québécois.
Tout va très bien, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
Une baisse jamais vue en valeur absolue depuis plus de 20 ans. Le nombre de demandeurs d'emploi a chuté très fortement en septembre. Il repasse sous la barre des 3,5 millions.
Les premiers de cordée, dans notre pays, ils ont déjà été bien servis. Et ceux qui travaillent ont quand même le sentiment d'être les grands oubliés à raison de cette première année d'élection d'Emmanuel Macron.
Une première depuis 10 ans, la France peut enfin afficher officiellement un déficit sous les 3% du PIB. C'est une étape indispensable pour que la France puisse sortir fin mai de la procédure de déficit excessif qui la vise depuis 2009.
Cela n'est rien, tout va très bien.
Faites-moi confiance, il y aura des moyens, mais mettre des moyens sans faire les choses qui, pour le moderniser, accompagner, transformer, avoir parfois du bon sens, c'est pas aider les gens. Parce qu'à la fin, les moyens, c'est vous qui les payez aussi, vous savez. Il n'y a pas d'argent magique.
Mais à part ça, madame la marquise...
Bonjour Mathieu Laine.
Bonjour.
Cette semaine dans l'Express, Xavier Bertrand répond clairement à cette question qui nous angoisse tous cette semaine. Est-ce que les Français vont mieux aujourd'hui qu'il y a un an? Alors réponse qui claque du président de région. Ceux qui, avec un gros portefeuille boursier, payaient l'ISF, oui, ils vont mieux, nous dit Bertrand. Ceux qui ont retrouvé un emploi grâce à la reprise, oui aussi. Pour les autres, hélas non, dit-il. Je vois, un an après l'élection, peu de résultats concrets qui améliorent la vie quotidienne des Français. Vous lui répondez quoi?
Il y a quelque chose de tragique à droite, cette perte du pouvoir qui devait être le leur, et les rangs, disons, irrationnels dans leurs commentaires. Je vois bien qu'il y a une quête de clientèle électorale potentielle dans ceux à qui on a demandé un effort supplémentaire, mais il faut quand même avoir un peu de recul, et le recul, il peut se faire à différents niveaux. Le grand recul, si je puis dire, c'est que le monde va mieux et tout ça a été démontré. Si vous prenez l'hélicoptère, le monde va mieux. C'est Progress de Norberg qui le décrit par exemple entre autres. La pauvreté a reculé d'un milliard de personnes depuis 1990. Le monde va mieux. Il y a un progrès véritable dans la sortie d'un grand nombre de personnes de la pauvreté, dans l'amélioration de la santé dans le monde, y compris sur les défis écologiques et environnementaux. Il y a un vrai mouvement du progrès. Regardons maintenant la France pour aller vite. La France, d'abord, on ne sauve pas la France en un an. On ne mesure pas les conséquences premières d'un certain nombre de mesures en un an. Je vous rappelle d'ailleurs que les mesures n'ont pas été prises le premier jour de l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. La mesure, évidemment, est toujours utile et intéressante et sera commentée ici. Mais ce qui me paraît important, c'est l'effet signal. En économie, Daniel Cohen nous le confirmera sans doute, mais en économie, il y a un effet important qui est l'effet signal. Et les signaux qui ont été adressés, à mon sens, par le président de la République, sont de bons signaux. Et des signaux qui viennent dire que la France est de retour. Moi qui vis à l'étranger, nous qui voyageons tous les uns les autres, nous percevons cela, par exemple. Ce n'est pas une mesure chiffrée, mais c'est une mesure émotionnelle et sincère et rationnelle, véritable. Les signaux qui ont été envoyés à la fois dans l'idée qu'effectivement on va arrêter d'hyper-matraquer fiscalement un certain nombre de gens qui produisent de la richesse, qui produisent de l'emploi, qu'on va essayer d'attirer dans notre pays plus de créateurs d'entreprises, que l'on va essayer effectivement de cesser considérer que embaucher est un risque et donc on va faciliter ou inciter à l'embauche en réformant le droit du travail. L'idée qu'on va pouvoir par ailleurs, sur le moyen long terme, sortir un certain nombre de gens d'un destin tragique en réinventant par Blanquer et d'autres l'école et la formation. Tout ça, ce sont des signaux forts et au-delà des signaux d'ailleurs des mesures véritables qui peuvent avoir un impact positif sur le pays. Que la jalousie politicienne s'installe, je la comprends. Que le débat démocratique soit là, évidemment, il le faut. Ce qui est certain, c'est qu'il, et j'en parlerai sans doute après, mais on a un Macron 1 aujourd'hui, c'est trop tôt pour le dire. Mais il y a sans doute besoin d'un second souffle, quoi qu'il en soit. Et c'est là, pour le coup, c'est de la critique constructive. Il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas été faites. Dans l'ouverture à la concurrence d'un certain nombre de marchés, dans l'idée qu'à mon sens, à un moment, il va falloir baisser l'impôt sur le revenu, idéalement de tous, pour là véritablement saluer le travail, que un jour ou l'autre, j'aimerais que l'on puisse créer une espèce de forfait ou de droit universel au travail et au capital pour que chacun qui a, disons, entre 0 et 500 euros par mois d'activité par son travail, ou parce qu'il donne un cours, ou parce qu'il va aider à déménager, ou aussi parce qu'il a du capital et qu'il va pouvoir louer sa poussette, son vélo, son appartement, ce genre de choses, eh bien qu'il y ait un geste de Macron qui vienne dire ben, « moi je veux saluer le travail et le capital de chacun, pas que des grands patrons ». Et même s'il le, en tout cas des grands propriétaires d'entreprises, même s'il le faut, parce que c'est ça qui derrière crée aussi la capacité d'embauche et la capacité pour chacun de trouver la possibilité de s'en sortir, mais que ce soit aussi pour chacun. Ça, c'est vrai. Et ben, c'est ça, libérer et protéger. Et je pense que ce second souffle devrait s'en inspirer.
Daniel Cohen, pourquoi cela semble si difficile de répondre à la question d'un point de vue économique? Est-ce que la France va mieux?
Alors, d'abord, la statistique qu'on utilise en général, mais qui pour l'instant reste utile, c'est le PIB. Donc la croissance économique au sens le plus simple, et il n'y a pas de doute possible qu'on enregistre depuis un an et quelques un renversement de tendance.
En dépit de ce coup de mou de la croissance dont on a parlé cette semaine, hein, qui passe de 0,7 à 0,3 pour les trois
premiers mois de 2018. Parce qu'effectivement, je crois qu'il faut regarder ça attentivement. Mais disons, avec un tout petit peu de recul, on a le sentiment que la décennie perdue, hein, comme on dit parfois, celle qui a commencé en 2008 et qui a duré jusqu'en 2016 peut-être, donc elle a duré que 9 ans, mais cette décennie perdue s'achève. Hein. La décennie perdue, c'est une expression qui avait été utilisée dans les années 80 en Amérique latine, après la grande crise de la dette. Pendant 10 ans, le revenu par habitant avait baissé. C'est comme si c'était rien passé. Et puis on a utilisé la même expression ensuite pour le Japon dans les années 90. Eh bien, le monde avancé, et la France en particulier, a connu une décennie perdue. C'est-à-dire que c'est une décennie pendant laquelle il s'est rien passé en termes de croissance économique, et donc par habitant, ça a été une régression, parce qu'il y a une croissance de la population. Alors, il y a une chose que les économistes savent bien, c'est que les décennies se suivent et ne se ressemblent pas. En termes statistiques, il n'y a pas de corrélation entre une décennie et celle qui suit. C'est-à-dire qu'on peut presque oublier ce qui s'est passé et recommencer à zéro pour penser la décennie qui suit. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un rebond, parce que s'il y avait un rebond, il y aurait une corrélation. Quand ça ne va pas bien une décennie, ça va mieux de l'autre. Mais c'est un peu comme si on tournait la page et on recommençait à zéro. C'est un peu le sentiment qu'on a. On recommence une nouvelle histoire, on ne sait pas trop ce qu'elle va être, mais en toute hypothèse, elle est décorrélée de celle qui s'est passée. Donc, ça démarre mieux, ne serait-ce que parce que on a mis fin à la purge budgétaire qui, pendant 10 ans, a étouffé la croissance européenne. La politique budgétaire redevient neutre. Ça suffit à ne plus étouffer la croissance. La politique monétaire reste encore très laxiste en Europe. Donc, plus de politique budgétaire qui étouffe et des taux d'intérêt qui restent très bas, ça fait respirer. Et comme il y a eu beaucoup d'investissements qui ne se sont pas faits au cours des 10 dernières années, pour les entreprises d'ailleurs comme pour les ménages en matière d'investissement logement, l'investissement est le facteur dynamique de la reprise, tout simplement parce qu'il faut rattraper le temps perdu et racheter les voitures cassées, les grues qu'on n'a pas remplacées, etc., etc. Donc tout ça est de bon augure, même si la France, entre guillemets, de Macron fait nettement moins bien que la moyenne européenne qui caracole à 2,5 dans le cas de l'Allemagne, elle se rapproche de 3 et nous, on est tout juste à 2. Mais enfin, relativement à 0,5 avant, c'est mieux. Donc tout ça pour dire que je crois, hein, sans faire de peine à Mathieu, ça n'a rien à voir avec Macron. C'est juste un cycle naturel, une reprise tirée par un changement de braquet de la politique budgétaire et une respiration nouvelle de la zone euro qui tire la France. Et d'ailleurs, le très bon chiffre du dernier trimestre était presque entièrement expliqué par la croissance des exportations françaises. On avait fait 0,7 et 0,6 s'expliquait par la croissance des exportations. Ça veut vraiment dire que c'est la conjoncture internationale qui fait la chose. Alors maintenant, pourquoi
cette baisse ce malaise
et pourquoi ce mauvais signe du premier trimestre? Mais c'est parce que dans la grande controverse entre l'INSEE et le gouvernement, l'INSEE disant que les mesures diverses qui ont été prises fiscalement allaient pénaliser les classes moyennes parce qu'elles ne profitent pas des baisses de l'ISF et qu'elles vont subir la hausse des taxes diverses sur le diesel, etc., sans que ce soit en réalité compensé.
Et qu'il n'y a pas encore la taxe d'habitation.
Et ben, ça se voit dans les statistiques, c'est-à-dire que ça fait 2 trimestres consécutifs, c'est pas juste un chiffre, où la consommation patine en France. Je pense que c'est le résultat de ça. Donc même si la tendance est bonne et même si au fur et à mesure que les taxes d'habitation, etc., remettront un peu de pouvoir d'achat, en réalité, la situation des Français aujourd'hui n'est pas si bonne. Ils voient le chômage refluer. Donc ils se disent, eh ben, qu'est-ce que ça veut dire pour moi en termes de pouvoir d'achat? Et pour l'instant, ça va peut-être changer. Au rythme de 2% et compte tenu des manipulations fiscales qui sont en jeu, ça ne veut pas dire une amélioration
alors
de la situation des Français.
J'allais
d'où
y
la
venir, autre indicateur. On va y venir, Mathieu Hélène. Autre indicateur central pour Emmanuel Macron, en effet, l'emploi, central pour d'autres aussi, notamment pour le président Hollande, l'emploi qui reste le repère clé. C'est vrai qu'on reste, Thierry Pech, sur une embellie historique, puisqu'on le sait, on l'a entendu, la France a amorcé la décrue du chômage de masse, 8,9%, le plus bas niveau depuis 2009. Et si on ne parvenait pas à descendre en dessous?
Alors, effectivement, les projections dont on dispose aujourd'hui laissent penser que sur le premier semestre 2018, le chômage va être relativement stable, un tout petit peu en dessous de 9% hors Mayotte. Bon, les facteurs qui expliquent ça sont assez simples. La création d'emplois privés dans le secteur marchand reste très dynamique. Et elle reste sur la lancée qui a été la sienne, c'est-à-dire celle de 2017, qui aura été une très belle année à tout point de vue, hein, pour les raisons que vient de dire Daniel, mais aussi sur le front de l'emploi. Mais il y a 2 autres facteurs qui viennent, paralyser le taux de chômage à un niveau qui est quand même assez élevé, paralysé pour un semestre. J'espère qu'ensuite il continuera à sa décrue. D'une part, c'est le fait que la population active, elle continue à s'accroître. Et vous savez que c'est une singularité française en Europe. Il y a peu de pays qui voient leur population active croître chaque année comme ça. Et donc, il faut créer encore plus d'emplois pour intégrer tout le monde. Ça, c'est le premier facteur. Et le deuxième facteur, c'est que le coup de vis sur les emplois aidés se paye, évidemment, sur le front du chômage, puisque on a depuis deux semestres consécutifs, maintenant, on va avoir une baisse rapide et prononcée des emplois aidés. Donc le bilan pour les Français à qui on dit ça va mieux, on crée des emplois, c'est vrai. Mais le bilan, c'est que la statistique majeure du chômage au sens du BIT, elle va pas bouger. Donc ça va créer ça va créer une forme de perplexité dans la population, très probablement. Parce qu'ils vont se dire, oui, on nous raconte que tout va mieux, et puis, pas vraiment. Alors, je voudrais revenir sur un deuxième point qu'a évoqué Daniel, c'est le coup de mou ou le patinage de la demande des ménages, la consommation des ménages, qui ne tire plus l'activité ou plus vraiment. Les facteurs qu'a indiqué Daniel sont justes, mais je voudrais qu'on se repasse ensemble le film. Macron arrive aux affaires avec un projet relativement équilibré, qu'il a décrit d'ailleurs lors de ses interventions télévisées récentes, qui est un deal intergénérationnel. Il dit « je vais monter la CSG sur les retraités, mais je vais redistribuer du pouvoir d'achat aux actifs via des baisses de cotisations sociales sur le chômage et via la suppression de la taxe d'habitation, qui d'ailleurs profitera aussi à un certain nombre de retraités. » Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il demande un audit des finances publiques à la Cour des comptes. Bercy produit d'ailleurs en même temps des données qui sont dramatiques. On dit « Ah là là, attention, on va pas être dans les clous, on sera au-dessus de 3% de déficit, il faut vraiment serrer la vis budgétaire ». Et la Cour des comptes produit également un résultat qui explique qu'on va être très très loin de la cible. 3,2 je crois, de mémoire. 3,1, 3,2. On est à 2,6 6 mois plus tard. Bon, alors, le problème, c'est qu'entre-temps, le gouvernement a choisi de modifier un peu sa copie. Il a dit, OK, je vais faire les prélèvements sur les retraités, la CSG, mais je vais différer le reste. Et cette désynchronisation de ce qui était le cœur, enfin un des cœurs du programme socio-économique d'Emmanuel Macron, explique un peu ce qu'on vit aujourd'hui. Plus les hausses sur le tabac, le carburant, etc. Mais moi, je m'interroge rétrospectivement, je me permets de le dire, sur la taille de l'erreur qui a été commise il y a 6 mois par ceux qui ont fait cet audit. Je veux dire, j'aimerais bien avoir l'avis de Daniel Cohen sur ce point, mais faire une erreur de 3,2 à 2,6, ça fait beaucoup, surtout alors, qu'on connaissait le niveau de la croissance quand même.
Alors, explication rapide de Daniel Cohen, et puis on donnera la parole à Pascal Perrineau. Donc, sur ce décalage.
L'explication, c'est qu'il y a une accélération de la croissance qui n'était pas prévue. On a fait une croissance du PIB de 0,7 points le dernier trimestre. C'est ce qu'on faisait en un an les années précédentes. Donc il y a une accélération qui a fait que les recettes ont été beaucoup plus fortes que prévues. Mais ayant dit ça, je suis tout à fait d'accord avec cette question. Mais en ne masquant pas que c'est aussi un peu le cœur de la contradiction du programme de Macron, à savoir que il y a un gros paquet fiscal en faveur des détenteurs du capital, de l'ordre de 5 milliards en ajoutant la flat tax et la suppression de l'ISF sur les patrimoines mobiliers. Et pour que ça soit cohérent avec une vision de la société dans son ensemble, on y a ajouté un gros paquet de taxes d'habitation auquel on rajoute maintenant le deuxième étage de la taxe d'habitation qui est pour les 20% les plus riches. Et si on rajoute la baisse de l'IS, en fait, le paquet fiscal de Macron est très important. On est passé de 5 milliards d'ISF, bon, c'était une pilule difficile à avaler pour la population française, à un paquet général qui va être entre 35 et 40 milliards. Et donc, c'est ça qui explique la difficulté où est Macron. C'est la raison pour laquelle, bon, peut-être il y a une erreur de diagnostic de la Cour des comptes, mais il a fallu échelonner un peu tout ça. Mais au bout du compte, alors que tout va bien, que la reprise est là, etc., en fait, il est constamment à chercher des économies de bout de ficelle. Il n'a, par rapport à la fonction publique, aux hôpitaux, aux écoles, etc., pas un sou à mettre dans le système. Le rapport Viviani dit qu'il faut une intelligence artificielle en France, commencer par augmenter les salaires des chercheurs. Il n'en est pas question. On fait une réforme des universités. Il n'est pas question de même mettre un centime pour aider les universités à mettre en place ce nouveau régime. En fait, c'est un gouvernement qui se retrouve les poches vides alors que la croissance reprend. Et je crois que ça fait partie, au-delà de l'épisode conjoncturel et du décalage dans le temps, de ce qui va être la difficulté de l'exercice pour les 4 prochaines années par rapport aux hôpitaux, par rapport aux écoles, etc.
Alors justement, j'allais y venir pour faire réagir à la fois Pascal Perrineau et Mathieu Laine. Xavier Bertrand, toujours lui et encore lui, parle cette semaine dans l'Express de tentation thatchérienne d'Emmanuel Macron pour poursuivre dans le sens qu'indiquait à l'instant Daniel Cohen. Pascal Perrineau et puis Mathieu Laine.
Oui, alors en termes d'opinion, c'est intéressant de voir que ces difficultés, les Français les décodent extrêmement bien. Il y a, toutes les enquêtes un an après le montrent, une forme d'attentisme qui s'est installée dans l'opinion publique, mais qui ne se traduit pas du tout, pour l'instant, par une volonté de sanction. Il est frappant de considérer, quand vous comparez Emmanuel Macron à ses prédécesseurs, qu'après, en effet, une sanction nette, qui est venu lors de l'été dernier, depuis novembre à peu près, Emmanuel Macron fait plus que de la résistance en termes d'opinion. Il est beaucoup mieux placé que ne l'était Nicolas Sarkozy un an après son élection. Il est beaucoup, beaucoup mieux placé que François Hollande un an après son élection. Et quand on demande d'aller au-delà de ces cotes de popularité sur l'appréciation du travail qui a été accompli par le gouvernement, par le président de la République en un an, particulièrement sur le terrain économique, on a des choses surprenantes par rapport à ce qui se passait dans les années précédentes. Par exemple, sur l'actuelle réforme du statut de la SNCF, il faut savoir que c'est plus de 60% de Français qui considèrent que c'est une réforme positive. Plus de 60%.
Oui, mais ça, c'est presque déjà le passé. Qu'est-ce qui se passe si dans les semaines qui viennent, le chômage, on l'a dit, stagne autour de 8,9%, qu'on n'arrive pas à aller au-delà parce qu'il y a des problèmes de recrutement, si on a le sentiment que ce président-là se résume à ce paquet fiscal qu'évoquait à l'instant Daniel Cohen et qu'on n'a pas le sentiment que des cadeaux ou des dons ou des améliorations sont faites pour les services publics. Qu'est-ce qui se passe dans l'opinion à ce moment-là?
Moi, je crois que l'attentisme bienveillant va continuer. Pourquoi? Parce que un homme politique, il n'est jamais seul. Emmanuel Macron pourrait souffrir d'éventuelles mauvaises nouvelles s'il y avait en face des hommes et des femmes capables de récupérer, de cristalliser ce mécontentement. Donc la force d'Emmanuel Macron aujourd'hui, ça n'est pas simplement sa force intrinsèque, la force ou non des propositions qu'il porte, c'est aussi l'incroyable faiblesse de tous ses adversaires, du Front National à la France Insoumise, en passant par LR et en passant par le Parti Socialiste. Et donc, on le voit très bien dans les enquêtes d'opinion, cet attentisme bienveillant continue, et même le renforcement d'une structure centrale pour politiquement enraciner le chemin des réformes, est à l'œuvre. Il y a un renforcement de la structure centrale. On voit bien qu'au-delà des seuls Français qui se sentent proches ou pas trop éloignés de la République En Marche, il a maintenant deux piliers. Il a un pilier du côté de la gauche modérée, de cette gauche sociale libérale. Il ne faut pas croire que cette gauche sociale libérale est repartie vers le Parti Socialiste ou la France Insoumise. C'est une erreur de diagnostic absolue. Et depuis maintenant 8 mois, il ne cesse de renforcer son pilier sur le centre droit.
Alors, pas encore d'opposition politique réellement cristallisée, dites-vous Pascal Perrineau, et pourtant ce que l'on entend quand même, ou celui que l'on entend notamment cette semaine, Mathieu Haine, je cite Xavier Bertrand lorsqu'il parle de tentation thatchérienne et qu'on entend tout ce qu'on vient de dire à l'instant, à savoir ces interrogations aujourd'hui sur un chômage de masse persistant et en effet sur la promesse du en même temps qui n'est pas complètement tenue d'un point de vue économique.
Alors, il y a, encore une fois, je pense qu'il faudra juger Emmanuel Macron au bout de 5 ans, voire 10 ans, j'espère, mais l'idée...
L'électorat
quand même,
sera-t-il aussi patient?
Nous verrons. L'idée est qu'effectivement, il y a assez de résultats concrets pour chacun, pour qu'il puisse remporter la prochaine élection, en tout cas pour ceux qui le soutiennent, mais je crois qu'on ne peut pas résumer Emmanuel Macron à un choc fiscal effectivement plus important qu'il n'en a l'air. Il y a bien d'autres mesures, mais je suis pas là, je suis pas son porte-parole et l'idée n'est pas de défendre à cet égard tout ce qu'il fait par ailleurs, mais je pense qu'on peut renvoyer chacun vers ce qu'il fait sur l'école et sur d'autres sujets. Pour rentrer dans le concret d'une vision profondément divergente pour le coup. C'est vrai qu'il est en train, sans être thatchérien, parce qu'on en est loin, d'amener l'idée en France qu'on va peut-être arrêter ce modèle où nous sommes champions du monde de la dépense publique, champions du monde du prélèvement obligatoire. On a les statistiques et je vous les donne si vous voulez, mais championne du monde d'un État extrêmement puissant, intervenant énormément. En fait, puissant n'était pas le bon adjectif parce qu'à force d'intervenir, il finit par être moins efficace. Et en tout cas, un État qui finalement désincite à l'effort véritablement et qui incite à profiter du système plutôt qu'à l'accélérer par soi-même. Et
donc, d'économies, par exemple, demandées à la fonction publique hospitalière, on a beaucoup parlé cette semaine. Comment ce sera justifié? Prenons cet exemple-là.
Si on raisonne en baisse de la pression fiscale, sans raisonner en dynamique, en raisonnant en statique, comme peut le faire souvent Bercy, on a l'impression que tout à coup on a une perte sèche et comment on va faire pour financer le reste. Si on raisonne en dynamique, si on cesse de raisonner en cadeau, il y a un moment où quand on vous prélève l'argent que vous avez gagné par vos efforts et votre inventivité ou votre capital, il y a un moment où finalement si on vous en prélève moins, c'est pas forcément un cadeau, c'est peut-être tout simplement une restitution, et c'est même assez moral, à chacun du produit de ses efforts ou de son inventivité. Et ça crée aussi toute une dynamique d'attractivité des talents. Quand on parle de l'exit tax, c'est assez fort d'oser ce genre de choses parce qu'on a, il ose casser comme ça cette espèce de dynamique où on viendrait vous dire en vous pointant du doigt, vous faites un cadeau aux riches, vous êtes vraiment un ami des riches.
L'exit tax, j'en ai pas cette semaine, en effet.
En réalité, quand vous avez on avait inventé une espèce de taxe, je crois que c'était Nicolas Sarkozy, si je me trompe pas, mais pour éviter que les entrepreneurs français partent à l'étranger pour bénéficier de leur plus-value au moment où ils la vendent, parce que la fiscalité ailleurs serait plus favorable, eh bien, ça a désincité, parce que c'est comme ça qu'il faut raisonner, un grand nombre de gens talentueux à créer leur entreprise en France, alors même que nous sommes véritablement dans un monde ouvert. Et donc les uns et les autres sont allés créer leur entreprise en Angleterre ou ailleurs, ou aux États-Unis, alors qu'ils auraient pu la créer en France. Et donc c'est Emmanuel Macron, c'est un acteur et un pédagogue de cette transformation et cette mutation vers l'idée que peut-être qu'on peut relancer ce pays, non pas par l'État et la dépense publique, non pas par les prélèvements toujours plus importants qu'ailleurs sur les uns et les autres qui effectivement ont plutôt réussi, mais en considérant qu'on va et réinciter les uns et les autres à gagner plus, à travailler plus, à inventer davantage, à produire chez nous et à attirer les talents du monde plutôt que qu'autre chose. Cela dit, encore une fois, ne jugeons pas Emmanuel Macron en un an. Ce que j'imagine moi, enfin ce qu'on peut imaginer en tout cas à cet égard, c'est qu'à la fin des fins et avant la fin du quinquennat, il y a dans cette logique de dynamique, là, pour le coup, à la Thatcher, mais adaptée à la France, il y a effectivement une baisse de la pression fiscale sur l'impôt sur le revenu pour chacun et pas que pour la première tranche,
par
exemple.
D'un point de vue économique, ce début de quinquennat, il est thatchérien ou il est blairiste, Thierry Pêche et puis Daniel Cohen ?
C'est trop tôt pour le dire. Je crois que là, pour le coup, je suis d'accord avec Mathieu. Il va falloir attendre un peu pour caractériser les choses. Par contre, on peut avoir une discussion sur l'orientation, sur la trajectoire qui se dessine aujourd'hui et qui sera très difficile de réajuster à la fin du quinquennat. Et moi, j'ai pas de problème pour qu'on regarde les choses en dynamique, j'ai pas de problème pour qu'on remette à plat ce que c'est qu'une façon progressiste de taxer le capital, par exemple. Mais j'ai un problème avec le fait que ce gouvernement, qui s'est présenté quand même sous le signe d'une idéologie hostile aux rentes, favorable à l'investissement, à la production, ne s'intéresse pas à certaines rentes.
Je suis d'accord.
Je vais aller au bout. Ouais. OK, on transforme l'ISF en IFI pour ne pas taxer le capital qui est investi. Et on taxe l'immobilier, pourquoi pas. Mais dans le même temps, on ne fait rien sur l'héritage, par exemple. On est dans des sociétés vieillissantes où le patrimoine se stocke entre les mains de gens qui aujourd'hui ont entre 55 et 85 ans et demain auront entre 65 et 85 ans. Bon, c'est ça qui se passe concrètement. Du fait des dynamiques démographiques, du fait d'une fiscalité de la succession qui est très faible, trop faible à mon sens. Bon, eh bien là, il y a de la rente. Vous voulez lutter contre les rentes ? La première, elle est là. Et là, on ne fait rien, on ne propose rien, on vit très bien avec tout ça. Donc, si on veut aller vers... Je vais le dire de façon outrancière pour
réveiller les fous du dimanche matin.
Si on veut aller en courant et en klaxonnant vers une gérontocratie plutôt plutocratique, il faut continuer comme ça. Alors, là, moi, j'aimerais bien qu'on ait une discussion sur la meilleure façon de taxer le capital.
On y va.
Mathieu
Lain. En deux mots, parce que je voulais laisser la parole évidemment aux autres. Je suis d'accord sur l'idée d'aller taper les rentes, mais pas de la même manière. La première branche du sujet, c'est de se dire il y a un certain nombre de rentes qui aujourd'hui sont protégées par des droits qui permettent dans un certain nombre de professions réglementées à des gens de la nouvelle génération par exemple, de s'installer, poser leur plaque et se déployer. C'était très macronien à la suite des autocars, ça devrait venir, si ça ne vient pas, je ne comprends pas. Il y a pour moi le plus grand plan social, le plus gros plan social du début du quinquennat dont personne ne parle, c'est la loi Grand Guillaume. C'est une loi qui a interdit, pour la faire courte, les chauffeurs Uber et VTC. En gros, c'est une organisation de la rente ancienne. Des grandes entreprises de taxi se sont organisées pour discuter avec le pouvoir, avant Macron, et pour dire on va créer un examen à l'entrée et on va perdre comme ça tous ces gens qui en fait nous prennent du boulot, qui sont plutôt des gens du 9-3 et qui c'est la rente, parce que s'il le fait pas, en gros c'était des gens qui avaient un permis de conduire, qui pouvaient bosser à cet égard là et aujourd'hui on leur demande de calculer le combien ils vont devoir échelonner leurs gains pour rembourser leur voiture en 5 ans. Et donc il y a plein de gens qui sont capés à l'entrée sur ce marché par l'orchestration de la rente, d'une barrière à l'entrée complètement infondée. Il faut ouvrir tous ces marchés à la concurrence, ça c'est aussi lutter contre la rente. Oui, sur la gérontocratie potentielle, pour le coup il y a deux visions. Soit vous avez une vision qu'on va qualifier, puisqu'on est dans l'excès, de proudhonienne, qui est l'idée que finalement, tout ce que vous avez gagné au fond de, au cours de votre vie, eh bien à la fin, c'est simple, on va redistribuer l'intégralité de ce capital que vous avez détenu à la communauté, comme ça on taxera moins le vivant, mais on va taxer le mort. Puis il y a une logique propriétariste, qui est de dire, bah, pour créer une bonne incitation à ce que chacun déploie son énergie, son capital, son travail, son innovation, etc., eh bien faut aussi qu'à la fin des fins, si vous avez accumulé dans une forme d'inégalité juste, parce que vous avez été meilleur, parce que vous avez créé, parce que vous avez innové, eh bien vous avez la possibilité de le transmettre aux vôtres, à vos enfants, et potentiellement aussi une dynamique, disons, de solidarité, qui j'espère un jour sera plus favorable chez nous, à faire ce qu'on appelle des charity, et à donner immensément de votre fortune, si vous l'avez accumulée, à des œuvres de solidarité que vous choisissez. C'est la solidarité privée. Ouais. Ce sont deux visions de la société, je suis plutôt dans la deuxième.
Voilà. Daniel
Cohen. C'est la différence entre la droite et la gauche, exactement, que vous venez parfaitement de résumer. C'est l'une, on peut dire, développons les forces productives, etc., mais au bout du compte, il faut que d'une génération à l'autre, on s'assure que tout le monde soit remis sur la même ligne de départ, ou bien considérons, comme Locke, qu'il y a une espèce de transmission intergénérationnelle du talent des grands-parents vers les petits-enfants et que c'est très bien comme ça. C'est une différence de philosophie, voilà, pour le coup, parce qu'en termes économiques, il n'y a vraiment aucune manière... Il n'y a en termes économiques vraiment aucune manière de montrer que la première est supérieure à la deuxième. C'est une question de philosophie, de philosophie politique et pas d'efficacité. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, pour revenir sur ce que disait Pascal tout à l'heure, je crois que le point le plus important, et ce que disait d'ailleurs Thierry aussi, la première chose, c'est que il y a une attention bienveillante. Il faut passer au-delà de ça, parce que là, pour l'instant, il a appliqué son programme et les gens ont considéré que c'était très bien parce que c'était écrit dans le contrat. Mais on est en train de sortir de ça. S'il n'a pas une adhésion à ce qu'il est en train de faire, ça va quand même mal se passer. Le deuxième point, c'est que si tout le monde est un peu en suspension, c'est pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a de la croissance. Quand il y a de la croissance, c'est quand même plus simple. Il n'y a pas ce ressentiment qu'on voit toujours surgir quand la croissance est faible. Qu'est-ce qui se passe? L'emploi, le pouvoir d'achat. Donc il a ce bénéfice-là. C'est quand même très important de savoir s'il le tiendra 5 ans. On se souvient de Jospin qui avait profité d'une croissance très forte. Il était très bien et très à l'aise dans l'opinion jusqu'au moment où six mois avant les élections de 2002, la croissance a chuté et il n'a pas été qualifié au deuxième tour. Donc c'est très volatile. L'adhésion qu'on obtient en donnant du pouvoir d'achat dans les poches des gens, c'est très fragile. Ça s'oublie très vite. Et
sur la question du en même temps que j'évoquais tout à l'heure.
C'est le en même temps. Ouais. Car ce qu'on est en train de découvrir, c'est que le programme qui se voulait équilibré, je vais donner de l'ISF aux uns, mais en même temps, je vais essayer d'avoir une sécurité sociale professionnelle, je vais essayer de réfléchir aux droits donnés aux démissionnaires, aux petits artisans d'avoir, etc. Tout ça est en train d'être balayé. Cette réforme du chômage dans laquelle on disait qu'on allait augmenter les droits pour les démissionnaires et les professions libérales, en réalité, on voit bien que c'est réduit à la portion congrue. Et je crois, pour retendre une dernière fois la balle au point que faisait Pascal, il me semble qu'on est progressivement en train d'oublier totalement le en même temps. On ne voit aucune mesure qui puisse simultanément se compenser par une autre d'inspiration sociale. Et le pari politique, il est que la gauche est morte, qu'il y a encore quelque chose qui bouge à droite et que c'est sur ce terrain-là que le gouvernement veut aller, d'où l'exit tax qui est de la provocation pure, parce que ça coûte 100 millions, on n'en a absolument rien à faire. Mais non, dire ça, c'est un signal qui s'ajoute à tellement d'autres. Attendons de voir. Bien sûr, mais il y a déjà eu l'ISF, il y a déjà eu l'exit tax. Voyons, mais on peut aussi rendre de l'argent sans limite. Mais il y a dans la symbolique politique quelque chose qui est en train de se passer et qui fait qu'on a l'impression...
Et Blanquer, le dédoublement des classes, tout ça
oui,
pas,
mais s'il se fait au détriment d'une autre mesure, à mon avis, plus intéressante encore, qui était d'avoir deux profs dans la même classe... Comme il n'y a pas d'argent, ce qu'on donne à l'un, on l'enlève à l'autre. Et au bout du compte, il n'est pas sûr qu'il y ait une augmentation générale de la qualité qui va se voir. Allez, pour les classes moyennes.
Très brièvement, Pascal Perrineau, pour conclure cette première partie.
Le président de la République, il fait aussi de la politique. Et par rapport aux enjeux dont nous parlons, et en particulier à cette affaire de gérontocratie ou non, de logique propriétariste, si vous voulez, deux remarques là-dessus. Quand vous prenez toutes les enquêtes, ce qui l'emporte en France, c'est la logique propriétariste. Ça n'est pas l'autre logique. Et c'est en cela que peut-être, on peut dire de manière un peu lapidaire, la France est à droite, même si je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Mmh. Mais en tout cas, sur le deuxième point, de la gérontocratie, il faut savoir, si vous voulez, que Emmanuel Macron, la force de son soutien, ce sont les gens de plus de 50 ans et de plus de 60 ans. C'est là où il a fait ses meilleurs scores. Pas du tout chez les 18-24 ans ou chez les 18-35 ans. Donc, il n'est pas complètement indifférent, si vous voulez, à l'entretien de cette base électorale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les dernières enquêtes, la différence entre les 18-24 ans et les 65 ans et plus sur la confiance au président, c'est de 15 à 20 points.
Allez, on connaît tous la phrase de Talleyrand.
La force politique de l'électorat d'Emmanuel Macron, elle est sans doute au-delà des 60 ans, mais la force de son discours, elle était dans la jeunesse et dans les actifs. Et il y a là quand même quelque chose qu'il faudrait
analyser. Vous reviendrez, ne vous inquiétez pas. Alors, je citais la phrase de Talleyrand parce que je me disais peut-être elle allait vous réconforter. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me comporte, je me console. Allons donc maintenant, messieurs, portez vos regards avertis outre-Manche où l'île de Sa Majesté rencontre quelques difficultés.
France Culture, L'Esprit Public, Émilie Aubry.
C'est un passé qui explose en Grande-Bretagne et prend la forme d'un énorme scandale politique, médiatique et humanitaire. Un scandale qui oblige à faire un peu d'histoire. Le 21 juin 1948, un navire s'amarre à quelques kilomètres de Londres, son nom, le Windrush. À son bord, des migrants originaires des colonies britanniques à qui on a offert le voyage pour aller reconstruire l'Angleterre d'après-guerre. Un droit de résidence permanente, mais pas la nationalité britannique. C'est à eux que l'on doit le nom de Génération Windrush, donné ensuite à ces centaines de milliers de travailleurs immigrés arrivés sur le sol britannique entre 1948 et 71 et qui n'ont pas toujours fait les démarches de régularisation dans un pays où il n'est pas nécessaire de détenir une carte d'identité. Sauf que 70 ans plus tard, la traque a commencé. Dès 2010, avec des camions publicitaires arborant dans les rues de Londres, des affiches représentant une paire de menottes et la mention « Si vous êtes illégalement au Royaume-Uni, rentrez chez vous ou risquez l'arrestation ». Propriétaires, médecins et employeurs étant invités à dénoncer ces illégaux dont certains, rappelons-le, étaient installés en Angleterre depuis un demi-siècle. À la manœuvre, les conservateurs et la ministre de l'Intérieur de l'époque, une certaine Theresa May, à qui succéda ensuite à ce poste Amber Rudd. C'est Amber Rudd qui a servi de fusible cette semaine et dû démissionner. Comme une odeur de moisi au Royaume-Uni, comme une insularité nauséabonde post-Brexit qui nous montrait un vieux royaume replié sur lui-même et réduit à se féliciter d'un royal baby ou d'un mariage princier à venir d'ici quelques jours, entre le prince Harry et Meghan Markle, actrice métisse américaine qui provoquait d'ailleurs un déchaînement de commentaires racistes.
Le tabloïd The Mail on Sunday avait révélé dimanche les messages de Joe Marnie, qui se plaint du fait que Meghan Markle, dont la mère est noire, va, je cite, « souiller notre famille royale avec sa semence ». Il y aura ensuite un premier ministre musulman et un roi noir, ajoute la jeune femme de 29 ans, avant de conclure « c'est le Royaume-Uni, pas l'Afrique ».
Après la démission d'Amber Rudd, il n'aura fallu que quelques heures au nouveau ministre de l'Intérieur pour prendre la parole.
La tâche la plus urgente que je dois accomplir est l'aide à apporter aux citoyens britanniques venus des Caraïbes, cette génération que l'on appelle Windrush, et de veiller à ce qu'ils soient tous traités avec la décence et l'équité qu'ils méritent.
Premier ministre de l'Intérieur issu de l'immigration pakistanaise, Sajid Javid a déjà occupé 6 postes ministériels. Avec cette nomination, Theresa May espère tirer un trait sur le scandale Windrush. Alors que ses détracteurs l'accusent d'être à l'origine de cette chasse aux immigrés clandestins, initiée dès 2010 lorsqu'elle occupait elle-même le poste de ministre de l'Intérieur.
Mathieu Laine, vous qui vivez à Londres, précisons-le, ces débordements racistes ou xénophobes, qu'il s'agisse de l'affaire Windrush ou l'affaire plus secondaire et en même temps très pertinente de Meghan Markle, qu'est-ce qu'ils nous disent de cette Grande-Bretagne post-Brexit ?
Je vais immédiatement venir à la Grande-Bretagne, mais comme vous avez ouvert le sujet sur une comparaison, soyons modestes. Soyons modestes parce que la montée de l'antisémitisme en France est palpable, qu'on aimerait que, pour le coup, des personnalités non-juives qui se mobilisent de plus pour aller lutter contre celle-ci. Parce qu'en France, on a aussi la montée en puissance de réunions sans les blancs, anti-blancs. Il y a des phénomènes chez nous qui nous invitent à la modestie, et je n'en cite que deux, mais il y en a bien d'autres. Un autre aspect, donc, si on vient directement au Royaume-Uni, avant même de rentrer dans le sujet du racisme potentiel de ce pays, d'abord, c'est une grande démocratie. Et c'est une grande démocratie, ça le demeurera sans doute, parce que c'est dans son ADN, quand on ment, on démissionne, Et quand on démissionne, on ne revient plus jamais. Ça fait plutôt du bien, je trouve. Je trouve ça assez sain. Et donc, effectivement, la ministre a menti sur l'absence d'objectifs chiffrés d'expulsion. Et donc, elle s'en va et on n'entendra plus jamais parler d'elle. Je trouve ça sain. Sur le racisme lui-même, en tout cas cette espèce de montée xénophobe, une mini-expérience personnelle, je l'ai éprouvée. C'était très étrange parce qu'on n'a pas l'habitude d'éprouver ce genre de choses. Mais quelle belle leçon pour nous. Pendant la campagne du Brexit, on s'est retrouvés avec ma femme à trois reprises, parlant français dans la rue, sortant d'un restaurant, genre de choses, et entendant ricanerie et entendant une fois, en gros, un message nous invitant à partir. Vraie expérience. On regarde d'autant plus derrière tout ce qui s'est passé chez nous et tout ce qu'il faudrait faire à cet égard. Eh bien, il y a très clairement, malheureusement, dans ce pays, mais je crains que ce soit partout, dans l'Occident à minima, mais cette montée du populisme se nourrit en partie, Pascal Perrino pourra sans doute le mesurer, mais d'une montée d'un phénomène de repli, de volonté nationaliste, de retour à soi, de critique de la mondialisation dans ce qu'elle permet, la libre circulation des personnes et l'attractivité potentielle de gens qui viennent d'ailleurs, avec un impact potentiel et que l'on peut comprendre, hein, mais qui fait que le centre des grandes villes devienne plus accessible parfois à des gens qui ont réussi et qui viennent d'ailleurs plutôt qu'à des gens qui étaient là avant. Sauf que, pour le coup, quand on regarde l'humanité dans ce qu'elle a de plus profond, eh bien, moi, je préfère raisonner sur l'homme que sur une nation. Ou en tout cas, je ne qualifie jamais les gens par l'endroit où ils vivent ou par leurs origines, justement, eh bien, cette libre circulation des personnes est un droit fondamental qui me paraît plus important. Il faut répondre, évidemment, à tout ça. Il faut dénoncer ce qu'il en est. Je dirais que Theresa May est sans doute le Premier ministre qui, depuis la guerre, a le travail le plus difficile qui soit. Je n'ai pas beaucoup de... Je trouve que, malheureusement, c'est difficile pour elle parce qu'elle perd, là encore, dans son ministère, dans son gouvernement, pardon, un ministre qui était favorable au maintien
dans l'Union européenne. Et qui sert un peu de fusible quand même dans cette histoire.
Et qui sert de fusible, évidemment. La tristesse que je vois chez nos amis anglais, c'est qu'ils sont obsédés par ce sujet. Ils ne parlent que de cela. Au lieu de penser finalement à une vision sur l'avenir, ils ne savent pas trop comment en sortir. En économie, il y a un autre sujet fondamental, c'est la sécurité, et à pouvoir se projeter un peu dans le temps, ce n'est pas possible puisque tout ça est flou. Ça crée donc de la destruction d'incitation. Les gens s'en vont. Je suis invité à des Brexit parties, ça veut dire qu'on s'en va, alors que il y a pas si longtemps, il était difficile d'obtenir des places au lycée français. Maintenant, c'est facile. Et donc, vous voyez bien que ce pays qui avait réussi à attirer les talents du monde, ou en tout cas une partie des talents du monde, et qui avait cette dynamique qui finalement était assez efficace et qui était sans doute le produit de certaines idées auxquelles je crois, eh bien, vient de briser cet élan.
En résumé, est-ce que l'île de la tentation est devenue l'île du repli, Daniel Cohen ?
Ben oui, clairement. Et d'ailleurs, pour enchaîner sur ce que disait Mathieu, ça prouve quand même que les réussites obtenues à coup de dislocation sociale ne sont pas très convaincantes pour l'opinion publique. Le taux de chômage anglais était donné comme le plus bas, le modèle à suivre, la preuve qu'on pouvait créer autant d'emplois qu'on voulait. Mais finalement, les populations ont dit que ça leur plaisait pas du tout, ces contrats à zéro heure, ce mode de précarité. Et on a vu le rejet populiste s'exercer avec plus de force encore que dans les autres pays, parce que pour le coup, il y a eu un vote qui fait que l'Angleterre, majoritairement, s'est déclarée contre la mondialisation, l'ouverture, etc. Donc, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce modèle économique, à supposer qu'il n'ait jamais été un modèle pour les Français. Mais je crois que le point intéressant aussi du Brexit, c'est qu'en effet, il s'est joué entièrement sur cette question de l'immigration, un peu comme Trump lui-même s'était joué sur la question du mur avec les Mexicains, mais d'ailleurs dans les deux cas, aux États-Unis comme en Grande-Bretagne, qui sont les immigrés dont on ne veut pas. Dans le cas anglais, c'était les Polonais, principalement, et dans le cas américain, c'était les Mexicains. En France, quand on parle de l'immigration, c'est toujours pour parler de l'islam. C'est toujours pour dire que si ça ne va pas, c'est parce que dans le Coran, blablabla, blablabla. En fait, on voit bien que c'est beaucoup plus général que ça, qu'il y a un certain nombre de populations qui sont dans une situation presque de suicide moral, et j'utilise le suicide parce que l'analyse de Durkheim du suicide ressemble beaucoup au terme dans lequel je crois il faut prendre cette situation, c'est c'est-à-dire une désocialisation, une perte de contact avec les autres qui font que l'image de l'autre devient une menace. Et on a étudié avec le CEVIPOF, que Pascal connaît bien, on a étudié très précisément, dans une grande enquête de 15 000 personnes avec le CEPREMAP et avec Sciences Po, on a regardé ce que disent les électeurs de Le Pen, non pas simplement de la question de l'immigration, etc., mais beaucoup plus généralement. Et on voit que, d'ailleurs, contrairement à l'extrême gauche qui partage la même détestation des élites, il y a un grand partage fondamental sur ce rapport à l'autre. Ce sont des gens qui ont peur des autres, pas simplement de l'immigré, mais aussi des homosexuels, mais aussi au sein même de leur famille. Ils se méfient des beaux-frères et des cousins, etc. C'est-à-dire exactement ce que disait Durkheim. Je suis désocialisé, je n'ai plus d'emprise dans la société, donc tout devient une menace. C'est exactement ce que subit le Brexit, et je crois pour cette dissociation sociale.
Et quand même la Grande-Bretagne, même si Mathieu Hélène nous incitait à rester modeste tout à l'heure dans cette comparaison entre la montée de la xénophobie en France et en Grande-Bretagne, c'est vrai qu'il y a quand même en Angleterre ce qu'on appelle l'Englishness, c'est-à-dire l'anglicité, c'est-à-dire aussi ce culte de la différence. Est-ce qu'il explique une xénophobie britannique particulière, Pascal Perrineau ?
Non, moi je crois, comme Mathieu Hélène, qu'il ne faut pas insister trop sur la spécificité britannique. Il faut regarder ça, si vous voulez regarder ce qui se passe dans l'ensemble
des pays. Enfin, le Brexit, pour l'instant, reste une spécificité
oui,
de ce pays-là.
Oui, mais parce que la culture, le rapport à l'Europe, à gauche, à droite, dans le système politique britannique, ne sont pas n'a rien à voir avec le rapport à l'Europe de la gauche française et de la droite française, ou de la gauche allemande et de la droite allemande. Il y a là des spécificités liées à la culture politique britannique que l'on connaît depuis longtemps, même s'il ne faut pas oublier.
Je reviens quand même à cette campagne d'affichage que nous a rappelé l'actualité britannique de la semaine. Ces affiches qu'on a pu voir à Londres entre 2010 et 2012 avec ces menottes et avec « si vous êtes illégal, rentrez chez vous », est-ce qu'on aurait pu les voir en France ? Organisé par le ministère de l'Intérieur.
Écoutez, moi j'étais frappé, j'ai suivi très attentivement les dernières législatives italiennes. On présentait l'Italie comme un pays largement à l'abri de ces tensions xénophobes, de rejet de l'autre, etc. C'était au cœur, pendant des semaines et des semaines, de la campagne des législatives en Italie. En Autriche, il y a quelque temps, ça a été la même chose. Et en France, tout de même, souvenons-nous des thématiques qui ont été celles de Marine Le Pen, qui a rassemblé tout de même presque 11 millions d'électeurs.
Là, c'est organisé par l'État.
Voilà.
Alors, c'est différent.
En effet, mais aussi ce qui est en train de ressurgir en Grande-Bretagne, c'est cette tension permanente, quand vous regardez l'histoire britannique, entre la Global Britain, la Grande-Bretagne complètement insérée dans le monde, regardant toujours en dehors d'elle-même, et puis ce qu'on a appelé le splendide isolement. Et là, vous avez dans ce mouvement de balancier qui ponctue d'ailleurs l'ensemble de l'histoire britannique, eh bien vous avez un retour, une tentation vers le splendide isolement. Mais je crois que les forces qui sont à l'œuvre en Grande-Bretagne, on les rencontre à peu près de la même manière dans bien d'autres démocraties européennes.
Mathieu
et ça n'est peut-être que le début.
Mathieu Hélène.
À un point tel, en rebond de ce que vous dites, que je ne ferai pas comme Daniel un lien de causalité aussi direct entre la politique libérale supposée excessive à ses yeux et le Brexit.
Pour le coup,
c'est important de le dire parce que c'est partout dans le monde et Obama a donné Trump. Enfin bon, on voit bien si on rentrait dans le détail que des politiques différentes ont nourri le même type de phénomène. Et d'ailleurs, si je vais un peu plus dans le raffinement de la tentative de compréhension de l'Angleterre, il y a dans le vote pro-Brexit toute une partie de l'élite, à la fois l'élite poche qui souhaitait vraiment depuis sa campagne rester chez elle et qu'on arrête de venir chez elle, et puis une forme et aussi une élite d'ailleurs libérale d'ailleurs musclée si je puis dire, qui était anti-technocratique, anti-Europe au sens où c'est un super État qui va nous embêter chez nous, et vous aviez un cumul comme ça de colère ou d'angoisse avec des gens qui en fait pensent absolument radicalement des choses radicalement opposées. C'est toujours le problème des référendums, c'est que vous faites l'alliance de gens qui ne répondent pas toujours à la même question. Mais bon, ça pour le coup, je crois qu'il y a des leçons à en tirer. Et ce que je perçois, parce que quand on est là-bas, évidemment, je peux vous dire qu'il y a une espèce de fantasme. C'est pour ça qu'il faut critiquer, mais il faut peut-être profiter aussi. Ils ont tous le fantasme d'un Macron anglais, je peux vous dire.
Il y a des élections locales d'ailleurs cette semaine, peut-être nous en dire un mot.
Et ben, pour le coup, ça va être regardé de très près, parce que si, par exemple, il ne faut surtout pas rester centré sur Londres, mais si quelques endroits dans Londres qui basculent à gauche, c'est un signal important. Comment voulez-vous que ce parti de droite, dirigé par une Theresa May, qui a encore une fois un travail bien compliqué et qui a en son sein des pro-Europe, des anti-Europe, qui sont terrorisés par la montée d'une gauche qui est pour le coup assez radicale, avec Corbyn qui en gros fait passer François Hollande pour un gentil centre droit. Vous avez comme ça une dynamique qui n'a rien à voir avec ce qu'aurait pu être par exemple un Miliband qui à l'époque, il n'y a pas si longtemps, était, je vais la faire courte, mais en gros une espèce de, aurait pu être une espèce de Macron à l'anglaise, et puis finalement ne l'a pas emporté. Aujourd'hui, si on prend un peu de recul, sans doute grâce au hasard, à la chance, à un talent, à une rencontre sans doute, ou un phénomène d'âge, Emmanuel Macron incarne une forme, à l'étranger en tout cas, incarne une forme de solution à cette tentation populiste. C'est la capacité d'unir des gens qui viennent de la gauche, du centre, de la droite, ou même qui ne votaient plus vraiment, à se dire quelles sont nos valeurs communes, même si on a quelques divergences. On est plutôt pour l'Europe, on est plutôt pour le libre-échange, on est plutôt aussi pour une forme de politique sociale pour ceux qui en ont véritablement besoin, et unissons-nous malgré le déterminisme du passé des partis du bipartisme.
Alors Thierry Pêche voulait réagir, non pas tant sur le fait que la Grande-Bretagne rêve de Macron, mais sur ce qu'on disait tout à l'heure.
Je crois qu'on se raconte des histoires.
Sur une spécificité, voilà, par ailleurs, vous pouvez répondre.
Pour le coup,
sur une spécificité xénophobe de la Grande-Bretagne.
À Londres, à Singapour, sur Tamise, comme disait en plaisantant un géographe récemment, il y a certainement des gens qui rêvent à Macron. Mais la géographie du vote pour le Brexit, c'est justement l'opposition de cette espèce d'énorme métropole qui a drainé à elle une très grande partie des réussites britanniques, et puis le reste qui a voté pour sortir de l'Europe. Et donc je rejoins pleinement Daniel quand il dit il y a quand même là l'effet d'un certain nombre de politiques qui ont tout misé sur, par exemple, le développement de la City, faire de Londres une capitale financière. Pour Londres, ça a été très bien. À Londres, merci, tout va bien. C'est ça le Royaume-Uni que nous aimons regarder. Mais le reste du Royaume-Uni, pardon, a exprimé dans le vote pour le Brexit, et à mon grand regret, a exprimé à l'occasion du vote pour le Brexit un peu la revanche de ceux qui n'étaient pas passés au guichet, quoi, et qui en ont pas eu pour leur argent, pardon. Non, je voudrais finir, Mathieu.
Par ailleurs, des années frimes de Tony Blair qui seraient un des facteurs d'explication de ce Brexit.
Je crois que ce qui est en train de vivre la Grande-Bretagne n'est effectivement pas spécifique à la Grande-Bretagne. Vous l'avez tous dit, vous avez raison. On aurait pu ajouter à la liste ce qui se passe, qui commence à se passer en Allemagne. Donc, naturellement. Mais il y a une déclinaison locale du problème qui, elle, est très spécifique. Parce que pendant la campagne sur le Brexit, effectivement, l'immigration a été l'objet central. Mais c'était l'immigration associée à l'Europe. Là, on a franchi une autre frontière avec la génération Windrush. On pensait que l'immigration du Commonwealth serait tenue en dehors de cette espèce de détestation de l'autre. Eh bien non. En fait, on a affaire à un développement du racisme ordinaire, général, bête, simple, grossier. Bon, et c'est ça qui menace. Alors, ça vient s'ajouter à beaucoup d'autres choses. Moi, j'avais dit à ce même micro, il y a maintenant bien longtemps, que le Brexit, ce serait pire que Suez pour l'influence britannique dans le monde. Eh ben, je pense que ça se confirme de mois en mois. Là, maintenant, il commence à avoir, et là, Mathieu l'a dit, il avait raison, je crois, il commence à avoir les conséquences économiques du Brexit. Des tensions sur la consommation des ménages, parce que ça importe de l'inflation, parce que, enfin, toute cette mécanique, la paralysie des investissements, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Le fait que le Royaume-Uni est incapable de prendre des positions sur le théâtre géopolitique contemporain, le fait que dans son face-à-face avec la Russie, franchement, ça se passe pas très bien. Bon,
cette difficulté à trouver de nouveaux partenaires pour la Grande-Bretagne, la Chine, les États-Unis. On voit
s'effondrer gentiment, petit à petit, le Royaume-Uni dans cette espèce de catastrophe.
Alors très rapidement, Mathieu Lannes, et puis
vous démontrez par vous-même, en évoquant les conséquences économiques cataclysmiques potentielles du Brexit, que le lien de causalité que je dénonçais ne va pas. Parce que précisément aujourd'hui, on voit bien que l'économie anglaise va être moins inspirée par ces idées et que malheureusement, la situation va s'aggraver et s'empirer. Le phénomène qui est Brexit, qui est intéressant aussi, c'est qui a voté pour ça? Pas les jeunes, les vieux. Les vieux. Et donc, il y a une espèce
c'est
de conservatisme.
C'est pas si simple quand on regarde les chiffres électoraux.
En tout cas, ça a bien contribué à ça. Donc, qu'il y ait des peurs dans les campagnes, C'est partout dans le monde qu'il y a des peurs dans les campagnes par rapport à aux villes.
Liverpool, c'est pas la campagne. Newcastle, c'est pas la campagne.
Bien sûr, merci. C'est pas de ce niveau de ce micro. Vous êtes gentil. On partage quand même un tout petit peu de valeur pour savoir qu'on connaît les choses. On n'est pas bas niveau aussi, on est à l'esprit public. Ouais. Bon. Par ailleurs, là, c'est un point d'accord, c'est que la montée en puissance du racisme, elle s'est traduite par exemple par des déclarations totalement hallucinantes de dirigeants polonais. Qui eux-mêmes ont tenu des propos fondamentalement racistes. Donc ça, c'est partout en Occident aujourd'hui.
Pascal Perrino et Daniel Cohen.
Oui, moi je crois, si vous voulez, que ce que l'on qualifie de racisme, et bien sûr qu'il y a du racisme, dépasse très nettement ce champ du rejet de l'autre et du racisme qui en Europe, en effet, n'a jamais été, en dépit des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, complètement expurgé et ne sera jamais expurgé. Mais en revanche, ce qui se met en place, ce sont de nouveaux types de clivages dans toutes nos sociétés. C'est la fin des vieux clivages que nous connaissions, des vieux clivages partisans, des vieux clivages idéologiques entre la gauche et la droite. Et c'est, et on le voit tout de même depuis 25 ans, l'émergence d'un nouveau type de clivage qui casse les partis, on le voit bien dans le système britannique, on le voit bien dans le système français, qui casse les allégeances à la droite et à la gauche, quel clivage entre ce qu'on pourrait appeler ceux qui considèrent qu'il y a plus de vertus que de défauts à la société ouverte, que cette ouverture soit une ouverture économique, une ouverture politique avec la construction de l'Europe, ou, pour les gens, ce qui est très important, l'ouverture de tous les jours, l'ouverture socioculturelle, le fait que nous vivons dans des sociétés de plus en plus cosmopolites. Et puis, de l'autre côté, toute une série de milieux sociaux, culturels, qui considèrent, en effet, que l'avenir, ça n'est pas du tout cette société ouverte, mais ce sont des sociétés du recentrage national. Et là, on voit que les pays se divisent à peu près partout en deux. C'est pas les élites ou les centres-villes contre le reste, ça se divise en deux. Hein, le Brexit, c'était 51,8, je crois. Hein, voilà. Bon, ce qui veut dire tout de même qu'il y avait en face presque 49% de Britanniques qui étaient pour le maintien. Et en France, c'était en 2005, sur le traité constitutionnel européen, 55-45. Donc on voit bien que ça casse les pays. Et pourquoi ça se focalise sur l'immigration ? C'est parce que la figure de l'immigré, eh bien, c'est l'image de l'homme mobile. De l'homme qui ne connaît pas les frontières ou qui cherche même à aller, en effet, même dans l'illégalité, à passer au travers des frontières. Et il y a là un symbole, j'allais dire, de ce clivage extrêmement fort et qui devient de plus en plus opératoire dans toutes nos échéances électorales. Et on le verra dans quelques mois pour les européennes de 2019.
Le mot de la fin, Daniel Cohen.
Oui, mais quand même, bon, on est tous d'accord pour dire qu'il est en train de se passer partout une transformation des termes de l'affrontement politique qui font que société ouverte, société fermée l'emporte un peu sur droite-gauche et redistribution. En tout cas, il y a plus, presque quatre quarts en quelque sorte, la droite classique, la gauche classique et puis société ouverte, société fermée. Mmh. Ce qui fait, par parenthèse et un petit quand même clin d'œil, que Macron est très admiré, c'était un éditorialiste du Financial Times qui disait ça partout quand il fait des beaux discours au Parlement européen ou au Congrès, mais en fait, il n'a aucun allié dans cette bataille pour la société ouverte et partout où il va, que ce soit d'ailleurs en Allemagne, en Italie ou ailleurs, il a exactement des forces inverses. Mais il faut quand même s'interroger sur les causes de cette transformation. Qu'est-ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années qui fait qu'aujourd'hui, c'est soit ça la question ? Je suis désolé Mathieu, mais on ne peut pas considérer que c'est indépendant de la transformation du monde économique, du monde industriel, qui fait qu'aujourd'hui, les forces d'intégration qui faisaient que dans les années 50 et 60, on avait le sentiment ouvrier ou patron qu'on était dans le même monde social, on l'a perdu aujourd'hui, donc on se sent fragile socialement et donc il y a un rejet de l'autre. J'insiste, encore une fois, c'est les Polonais en Angleterre, c'est chez nous l'image de l'islam qui prend cette place, ça n'a rien à voir avec les caractéristiques propres de ces immigrés et tout à voir avec notre société elle-même.
Merci Daniel Cohen, Thierry Pech, Mathieu Lannes et Pascal Perrino d'avoir été nos visiteurs du dimanche. Pas de livre cette semaine, on a été trop bavards. La semaine prochaine et sur notre site internet. Merci à Marine Beccarelli qui a préparé avec moi cette émission, à Luc Jean Reynaud qui l'a réalisé, à la technique aujourd'hui Pierre Monteil et Jean-Michel Després. Tout de suite et comme chaque semaine, c'est l'heure de retrouver Alain Crugère pour un déjeuner du dimanche qui fleure bon l'huile d'olive des Alpilles et de la Provence. Passez un bon dimanche, à la semaine prochaine.